Cet après-midi, on est parti pour plonger de façon plus précise dans le récit, hein, dans les versions. Donc, je vais vous proposer une lecture lente d'un passage. On a redécoupé en un, la mort ou l'endormissement, l'enchantement. Deux, la manière dont elle est isolée du monde. Trois, l'éveil du désir du prince, comment ça se fait que lui, il se met en route, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'éveil du désir, c'est le hasard ou c'est du désir, la rencontre, comment elle se passe, donc on reprend un peu ce qu'il y a eu ce matin, mais ce matin c'était survolé, là on va en profondeur, le réveil et l'après. Peut-être que lorsque, comme nous n'avons qu'une heure et quart pour faire ça, on n'ira peut-être pas jusqu'à la sixième étape, on ne sait pas, mais en tous les cas, on rentre dans cette méthodologie de travail. Donc, je vous fais un bout de lecture. On s'arrête, on en discute les uns les autres. Les collègues ici, donc Françoise Dieppe, Mathilde Lapeyre, Yacine Arbia, nous donneront en écho les autres versions. Et Marc, il fait le bon retraité qui parle bien.
Qui parle pas.
Alors c'est parti, c'est bon pour vous tout le monde, c'est clair la manière dont on va fonctionner?
Ouais, simplement peut-être dans les repères, pour moi ce qui est très important quand on étudie les versions en tant que telles, c'est toujours d'avoir cette, une version de référence, peu importe laquelle, pour pouvoir poser, et surtout faire une écriture très longue, détecter les grands motifs qui vont venir, et surtout l'espace symbolique qui va se mettre en route à ce niveau-là.
Donc je ne censure pas déjà ce que... À première lecture, je vois bien que ça, c'est du discours de l'amour pour toi. Je ne censure pas, je le mets à la discussion.
Voilà.
D'accord. L'empereur de Gincenay était preux, courtois et vaillant, aimé et respecté de ses sujets, et il avait une fille très belle, sincère, plaisante et jeune. Amoureuse et de belle allure. Et comme la mort va, ça et là, et souvent bien plus qu'il ne serait nécessaire, la jeune fille mourut un jour, à la table où elle mangeait, tandis qu'elle entendait les jongleurs et que les mets étaient les plus agréables. C'est pourquoi le proverbe dit souvent « Après grande joie vient grande douleur ». Et joie après grande tristesse. Le bien et le mal ont parti liés, car en ce monde, aucun bien n'est durable selon la volonté de Dieu. Après les larmes, la douleur et les cris, si grands par le pays qu'on entendait gémir et pleurer, étrangers, amis et voisins pour déplorer la jeune fille, vinrent les abbés et les archevêques, les prélats, les chanoines et les évêques, pour ensevelir la demoiselle que l'empereur et l'impératrice avaient déjà fait laver, et fort bien, avec du baume, de la myrrhe et bien d'autres onguents, afin que le corps ne pourrit pas. La mort de la belle dans La Belle au bois dormant médiéval, Frère de joie et Sœur plaisir.
Mon premier point là, on est vraiment sur une mort. C'est vraiment la mort en tant que telle, enfin, la léthargie en tous les cas, puisqu'on va voir après bien sûr qu'au moment de l'enterrement, le père ne va pas vouloir l'enterrer, puisqu'il considère que... Hein, donc après, chez Basile, je pense que c'est beaucoup plus radical.
Il était une fois un grand seigneur qui, à la naissance de sa fille, Thalie, convoqua tous les savants et les devins de son royaume pour qu'ils prédisent son avenir. Après s'être bien consultés, ils conclurent qu'elle courait grand danger à cause d'une écharde de lin. Aussi, pour qu'une telle malencontreuse conjonction ne se présente jamais, le père interdit-il formellement qu'on fît entrer du lin, du chanvre ou d'autres substances semblables dans sa maison. Cependant, alors que Thalie était déjà grandelette, elle vit de sa fenêtre passer une vieille qui filait. Et comme elle n'avait jamais bu de quenouille, ni de fuseau, sa curiosité s'excita à entendre rossignoler le rochet, et elle fit monter la vieille dans ses appartements. Empoignant la quenouille, elle commença à tirer le fil. Mais, hélas, une écharde de lin se planta sous son ongle, et elle tomba, morte, par terre. Avisant cela, la vieille retrouva vite les escaliers et elle les déballe encore. Quand le pauvre père apprit ce coup du sort, il paya d'un baril de larmes cette barrique de piquettes. Puis, il ordonna que l'on plaçât sa fille morte sur un somptueux siège de velours, coiffé d'un baldaquin de brocart.
Non, là, c'est la deuxième.
On est sur le deuxième étage.
Ah, c'est, bah, pas... c'est bon.
Parce que déjà, qu'est-ce que vous repérez déjà dans les deux versions ? Là, déjà, la première, vous avez vu, c'est assez radical. Hein, on est sur...
Oui, puis il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de malédiction.
Il n'y a pas de malédiction. Hein, donc, déjà, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment. Elle meurt. Voilà, hein. Là, déjà, bien sûr, c'est un point symbolique, il va falloir faire attention parce qu'il est dans une richesse assez basile. Avec une belle langue, mais en même temps, lui, il va prendre tous les éléments symboliques qui sont en ligne de compte. Hein. Donc, qu'est-ce que vous repérez comme élément symbolique chez Basile, par exemple ?
Le lin, dont tu parles.
Le lin, le fameux lin. Le lin. Voilà, le fameux lin. Donc, le lin, quand on a des éléments végétaux de cet ordre-là, ne vous arrêtez pas sur le fait d'avoir une simple représentation. Hein. Dès que vous allez chercher sur la relation de Olin, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a déjà, il est énoncé 59 fois dans la Bible, Olin. Et chaque fois dans des espaces rituels extrêmement précis. Systématiquement, on est dans une plante qui est rattachée à la pureté, donc à tout ce qui est de l'ordre, en même temps de la blancheur. Mais c'est aussi avec le lin qu'on a fait le linceul du Christ. D'accord ? Il y a une résonance. Je ne dis pas qu'il y a une solution, mais il y a une résonance qu'on ne pouvait pas laisser passer. Donc, elle va apporter du sens sûrement sur la raison d'être pour la suite. Hein. Voilà.
Mais là où se va se poser la question, quand on a cherché comme ça pendant longtemps, c'est que de tout d'un coup, on comprend les résonances, mais ce n'est plus un savoir qui est partagé par le public. Donc, on ne peut que le transmettre justement une fois qu'on l'a compris, et non pas par le discours explicatif, mais par une sorte de magie sensorielle, quoi. Enfin, et puis de manière de raconter.
Il y a à la fois la magie sensorielle et il y a en même temps la possibilité de rajouter des éléments,
oui.
Mais qui, à condition qu'ils rentrent dans l'espace poétique.
C'est ça.
Et qu'ils ne deviennent pas didactiques.
C'est ça.
Hein, donc, c'est toute la problématique, et c'est là où l'auteur va devenir important. La finesse de l'auteur
de rajouter un petit truc qui permet au public de comprendre,
pas de comprendre, mais
d'accéder
plus ou moins à l'émotion que ça doit déclencher.
Et la vieille, c'est un tropos.
Comment?
La vieille, c'est un tropos.
Oui,
c'est de la mort.
C'est un personnage.
Donc le public, même s'il ne connaît pas un tropos, la légende des trois parcs, etc., ça fait partie de l'inconscient collectif, donc c'est en lui. Donc quelque part, ça va jouer. Il n'y a pas besoin de lui expliquer didactiquement.
Non, mais quand tu portes cette histoire, par exemple pour la vieille, oui, c'est accessible. Donc, que la vieille, c'est la fileuse du destin.
Mais est-ce que à certaines époques, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, le lin n'avait pas toute cette puissance évocatrice qu'on lui reconnaît maintenant, qu'on ne connaît plus maintenant. Mais est-ce que quand tu disais lin, tu disais pas linceul déjà, ou quand tu disais drap de lin ou linceul, est-ce que maintenant c'est perdu? Mais dans l'écriture, je dis bien du conte, je pense que pour l'auditoire, c'était parlant à une certaine époque.
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est aujourd'hui que ça demande quelquefois.
Mais à l'époque, les gens avaient tous ces images en tête. Ils savaient très, très bien ce que signifiait le moulin.
Voilà.
C'est tout le problème. Mais le problème, c'est qu'on a changé de civilisation, on n'a pas les mêmes repères. Et donc, nous, on est obligés d'ajouter certains éléments. On a le même problème quand on a des contes qui sont des contes étrangers. Voilà. Pour des enfants, parler de d'igloo, s'ils n'ont jamais vu d'igloo, ça doit faire une petite description pour qu'ils comprennent que c'est une maison. Mais on va pas le tout, c'est de ne pas le faire en tant que didactique. Il faut que vraiment ça soit, qu'on privilégie l'émotion qui va avec ça, plus que l'explication, en fait.
C'est ça.
Donc oui, il y a la mort, mais en même temps, il y a aussi le fuseau. Mais le fuseau il est beaucoup plus complexe que la mort. Parce que quelque part, symboliquement, le fusil, le rouet, le fuseau, le filage ne pouvait être que quand on avait eu ses règles dans la tradition. C'est quelque chose qui jouait avec le fil, qui se tirait comme des parcs. Hein, pour pouvoir donner la vie, il fallait être fertile. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, donc, je vous donnerai une biblio, mais il faut aller voir un très bel article qui s'appelle Les épingles et les épines. Ah, oui, ouais. On en verra de Anne Bonjaret. Donc, pas celui de Verdier, parce que ça, vous le connaissez bien. Il y a un article qui est en accès libre, hein, sur Internet. Vous mettez épingle, aiguille, Anne Bonjaret avec ET à la fin, J et ET. Et elle donne bien toutes ces explications et toutes les relations d'interdiction d'utilisation du filage pendant des périodes précises, en particulier pendant les sept Catherines. Voilà. Donc, il y a toute une tradition, il y a un folklore qui vient là derrière qui est extrêmement important. Hein. Le lin, il y a des quantités de rituels de fertilité partout en Europe au niveau du lin en tant que tel. Donc tout ça, il y a un rattachement que nous, on a perdu de sens, qui était très, très, très précis dans ces contes-là. Donc, qu'est-ce que ça amène à réfléchir sur l'état qui est en train de se jouer là? Une jeune fille qui a eu ses règles, d'accord? Le fuseau, c'est une emblématique du sexe masculin en tant que tel. Vous allez avoir le lin qui est la pureté. Voilà. Donc, si vous voulez, moi quand je travaille un conte, c'est ça, c'est de petit à petit, je n'ai pas les clés immédiatement, mais commencer à mettre en connexion tous ces éléments. Qu'est-ce qui est en jeu? Aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas compris, mais est-ce que mon émotion peut s'ajuster là-dessus? Est-ce que je peux arriver à trouver une narration qui va permettre de faire passer cette ambivalence, cette ambiguïté, en fait? Voilà. Donc, moi, le grand travail, il est là. C'est-à-dire que le symbole n'est pas à redonner tel que, mais en tant que source d'inspiration. C'est quelque chose qui nourrit. On parlait de nourriture ce matin. C'est cette nourriture qui va nous permettre de passer à l'ingestion et au jaillissement. Si on passe à côté, il va nous manquer quelque chose.
Oui, moi, je voudrais ajouter que la quenouille... on disait au Moyen-Âge, un homme quenouille, hein, c'était... le contraire d'une femme qui porte des pantalons aujourd'hui. Quoi. Mmh. L'homme quenouille, donc ça nous place aussi sur le terrain du genre. Le conte là se situe dans son début, vraiment dans les champs féminins. L'homme qui manipule la quenouille, c'est vraiment celui qui avait une défaillance du côté viril. Là.
Mmh. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Josie, les gens qui sont en... C'est bon? Faites-moi un petit signe. Oui, ça marche. Ok. Bravo Josie, ta voix était claire et puissante.
Donc on peut aller voir peut-être dans Perrault comment ça se passe.
Oui, alors il y a d'autres qui... Perrault, il a rencontré, je passe le passage des fées hein, qui sont passées. Donc là, c'était... Et puis pour arriver directement au moment de la mort, elle va aussi... rencontrer cette femme, donc il y a marqué elle monte pendant que ses parents sont partis. Que faites-vous là, ma bonne femme? Dit la princesse. Je file, ma belle enfant, lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. Ah, que c'est joli, reprit la princesse. Comment faites-vous? Tenez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. Elle n'eut pas tôt pris le fuseau que, comme elle était forte, vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait, ainsi elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Est-ce que vous
continuez? Mais peut-être avant, il y a peut-être aussi les sorts que jette la reine, les fées ne sont pas gratuits.
Hein. D'accord, oui, ils ne sont pas gratuits, mais c'est parce que comme ça...
Ah oui, on m'avait dit la mort.
Voilà, on m'avait dit la mort, donc je suis allée sur la mort directement. Donc,
Les fées rouges, je crois qu'il y en a 7, non, c'est ça?
Oui, il y en a 7, tout à fait. Il y a 7, et alors, donc on mit devant chacune des fées un couvert magnifique avec un étui d'or massif. Il y avait une cuillère, une fourchette, un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée Il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme les autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. Donc c'est la 8e. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes filles qui se trouvait auprès d'elle l'entendit et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la princesse, alla dès qu'on fut sortie de table se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde, celle d'après qu'elle aurait l'esprit comme un ange, la troisième qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait, la quatrième qu'elle danserait parfaitement bien, la cinquième qu'elle chanterait comme un rossignol et la sixième qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans les dernières perfections. Le rang de la vieille fée étant venu, elle lui dit en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi, reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que la tapisserie, que je n'ai pas de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait, la princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout duquel le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille femme, fit publier aussitôt les édits.
Donc on a souvent aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé dans ce récit, c'est la notion de loi. Le roi qui va faire un édit, un interdit, etc. Et pour moi, ça m'interroge beaucoup sur la puissance de la loi. Parce que la loi, en même temps, elle ne va pas être suffisante, de toute façon. Même si le roi prend toutes les précautions, même s'il va jusqu'à faire enlever tous les fuseaux, il faut penser qu'enlever tous les fuseaux, c'est carrément un symbole de stériliser le royaume, quoi. Donc, c'est aussi le fil, c'est aussi il y a tout un espace derrière.
Sous peine de la vie,
c'est-à-dire
qu'ils tuent les gens si jamais il y a des fuseaux chez eux.
Voilà.
Et il est écrit.
Donc on est vraiment sur un endroit où l'interdit est terrible. Hein. C'est l'interdit qui devient pour protéger une personne, en fait. Hein. Voilà. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que toutes les fées vont donner quand même des dons qui sont que des dons de l'apparence. C'est qu'une image qu'on peut donner. Il n'y a rien de plus.
La danse, la musique.
L'esprit.
Comme un ange.
Oui.
Je dirais les muses
comme un ange. Comme un ange, hein, donc voilà.
L'esprit comme un ange.
L'esprit de l'ange. Hein, voilà. Donc on est vraiment sur le côté derrière qui est. Voilà. Et moi, je me pose toujours la notion du mourir. C'est cette notion de mourir, en fin de compte. Moi, cette vieille fée, je me pose la question, est-ce qu'elle est vraiment positive ou négative? Est-ce que... Est-ce que quelque part, comme on nous l'a décrit après avec deux fuseaux, un peu fofon, un peu. Mais de façon de la mettre aussi.
Non, mais c'est pas la même.
Hein?
C'est la même ou non?
Oui, c'est la même.
Si,
c'est la même.
Donc, c'est pas la fée. Hein?
Non, c'est, voilà, c'est pas la même.
Mais c'est la même.
Mais n'empêche qu'on est là dans quelque chose qui.
C'est pas la même.
Hein? Oui, qui nous prouve que c'est pas la même.
Parce
de toute façon.
Dans Perrault, en tout cas, excusez-moi, je
te Oui.
Dans Perrault, en tout cas.
Viens par là.
Vient d'une tour.
Oui.
Qu'on ne l'avait pas vue depuis 50 ans. Elle est enfermée là. Et quand la princesse a 15 ans et qu'elle se promène dans le château, elle monte dans une tour qu'elle n'avait jamais vue non plus, et elle tombe sur cette vieille femme. À l'inverse du conte que on a lu précédemment, mm-hmm. c'est la princesse qui va au devant de son destin en quelque mm-hmm. sorte. Elle va voir la vieille femme. Alors que dans le conte précédent, c'est la princesse qui voit du haut de mm-hmm. sa fenêtre une vieille fileuse mm-hmm. dans le
enfin, la vieille fileuse, il faut bien qu'elle vienne de quelque part et elle n'est peut-être pas là par hasard non plus. Hein.
Mais on peut penser que la fileuse est fait carabosse.
En tous les cas, pour moi, dans les contes, il y a toujours ces ambivalences. On ne peut pas les résoudre en tant que tel, parce que le conteur ne nous le dit pas. Si on lui demande, il va nous dire le conte ne le dit pas. D'accord ? Mais n'empêche que l'ambivalence, elle est là, et c'est ça qui déclenche le travail, en fait. C'est si on les fait raisonner, ben, ça va poser question. Si ça pose question, on continue à nous à développer des espaces aussi de résonance par rapport aux autres personnages, et souvent, on est même des fois obligé de revenir sur l'arrière du conte pour essayer de comprendre. Hein. Voilà. Donc, on est vraiment sur des espaces comme ça qui sont… Donc, on peut aller peut-être sur Grimm.
Pareil, je relis… Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, il se disait « Ah, si seulement nous avions un enfant !» Mais d'enfant, moins. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées, afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume. Mais comme ils ne possédaient que 12 assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite tout ce qui est désirable au monde. Comme 11 des fées venaient d'agir ainsi, la 13e survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une voix forte : La fille du roi, dans sa 15e année, se piquera un fuseau et tombera raide morte. Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit ceci. « Ce ne sera pas une mort véritable. Seulement un sommeil de 100 années dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa 15e année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada les 3 escaliers en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lin avec application était assise dans une petite chambre. « Bonjour, grand-mère, » dit la jeune fille. « Que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille en branlant la tête. « Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ?» demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touchée que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil.
Après, pendant cette version de Grimm, déjà, il y a des choses qu'il faut connaître, savoir. Ça, mais c'est pas mal. C'est que bien sûr, Grimm n'a jamais collecté dans le monde rural. Il n'a collecté que dans le monde urbain. Voilà, déjà. Et que il a, ce compte-là, il a eu par l'intermédiaire d'une gouvernante française. Il faut penser qu'à l'époque, c'était la période pré-napoléonienne, l'administration était en français. Et pour être bien placé, il fallait apprendre le français. Donc, toutes les familles bourgeoises embauchaient des gouvernantes françaises. Voilà. Donc, c'est évident qu'il y a déjà des poches extrêmement peu en relation à Perrault. On s'en rend compte qu'on n'est pas loin. Il y a peut-être de l'aménagement, mais en gros, c'est déjà quelque chose qui est assez proche. Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant, justement, dans la façon dont on pose la quenouille, on joue avec la quenouille, etc. Il y a vraiment tout un... Quand on commence à faire le rapprochement entre le symbolique et les mots, bon, là, on sent très bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu déjà... dans
la chose bondissante.
La chose bondissante. Voilà.
Mais là, par exemple, aussi, je trouve que c'est intéressant de s'interroger sur féminin, masculin, les vertus. Voilà quelque chose qui, à mon avis, si on devait, enfin, les dons accordés par les fées, alors elle est vertueuse, gentille, belle, raisonnable,
riche,
on le garde.
Et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde.
Voilà.
Mais pour qui ?
Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, la fille, on voit bien quoi, vertu, gentille, raisonnable, ça par
belle,
exemple,
belle et riche, c'est la troisième chose, oui, riche.
Belle.
C'est encore pire que chez Perrault. Où elle chante bien.
Oui, voilà. Et du coup, ça c'est par exemple quand tu te posais la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, ben, avant de le jeter, j'y travaillerai encore, je l'ai pas dans mon répertoire, mais ça par exemple, c'est un truc qui m'irrite moi. Hein, qui vous irrite aussi, non ? ça vous irrite. On ne dira plus d'une fille que ce qu'on espère, c'est qu'elle soit vertueuse, gentille.
Non, gentille, c'est belle, non, riche.
Vertueuse.
Toi, tu...
Je ne crois pas. Non, je crois pas.
Mais en même temps, dans les autres versions, le fait qu'elle se pique avec le nain, etc., vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose.
Ouais.
Il y a la relation à la pureté, il y a la relation. Mais quelque part, ça c'est dit ou pas aussi violemment, pas aussi directement. Mm-hmm. Donc, du coup, ça demande un travail pour l'auditeur autant que pour le conteur. Il y a une résonance qui se met en place et pas un dictat. Et ça c'est extrêmement important.
Là, c'est une interprétation sur un certain niveau.
Oui.
Donc, en fait, la vision, peut-être c'est sociétal, mais peut-être si on revient, je suis un peu obsessionnelle, mais Aïcha, c'est le désir qui vient, qui fait qu'on a envie de. Ce qui bondit, ça peut être la joie de vivre, c'est pas forcément sexuel, et on est interprété comme ça. Après, c'est ce qu'on nous, on va.
Ouais.
Parce que peut-être
formaté. Mais sauf qu'après, c'est les enfants qui arrivent à lui retirer. Les chevaux, quand on sera à ce moment-là, je trouve que c'est très beau d'ailleurs. Enfin, c'est horrible qu'elle soit enfantée pendant son sommeil, mais que les enfants la réveillent, je trouve ça très beau. Hein.
C'est pas chez Grimm.
Oui, oulala, il y a une forêt de questions.
C'est pas chez Grimm.
Elle est fille de roi, oui.
Donc elle a un rang à tenir. Donc il y a un certain nombre de vertus qui peuvent être celles. Alors, c'est vrai qu'il y a la société dans laquelle on vit par la présence de la société. Voilà, donc on dit qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui est de.
Oui, bien sûr, il y a la contrainte sociale est là, de toute façon.
Oui, mais c'est. Moi, je trouve que. Oui. Mais de toucher aux qualités, aux dons, parce que par contre, de savoir chanter, de savoir se réjouir, de savoir goûter à la vie ou je ne sais quoi, tu vois, que ces dons, du coup, tu te poses la question, qu'est-ce que la royauté ? La royauté, ma royauté intérieure, est-ce qu'elle tient au fait que je sois, c'est quoi le mot ? J'ai du mal avec, vertueuse.
C'est cela.
Oui, moi je voudrais ajouter que dans les deux contes là, les deux derniers de Grimm et de Perrault, il y a un défaut quand même de cette femme particulièrement féminin, c'est la curiosité malgré tout qui est soulignée.
Oui.
On peut dire que c'est positif ou négatif, mais bon. Et puis aussi les parents.
Oui, voilà, moi j'allais dire ça. Chaque fois, ils sont absents le jour dit où on a dit que ça allait se passer.
Le jour où c'est 15 ans, alors qu'on les avait mis en garde depuis 15 ans, c'était ce jour-là.
Enfin, et la femme curieuse, ça fait écho aussi à Ève, le péché originel, qui par curiosité va goûter à ce qu'il ne fallait pas goûter.
C'est dit chez...
Et les interdits, et heureusement qu'on les transgresse.
C'est dit chez Grimm, de manière claire.
C'est dit très nettement.
Mais chez Perrault, je trouve que c'est moins clair, parce que c'est marqué au bout de 15 ou 16 ans, et puis... Elle se promenait, elle est tombée par hasard sur le donjon. Et là, il y a la serrure, la petite porte, il y a quelque chose de...
Non, il advint que le jour de sa 15e année, alors que c'était dit dans la malédiction. Et le roi et la reine quittèrent leur demeure.
Moi, ce qui me paraît intéressant quand vous avez des cas comme ça, c'est que ce n'est pas obligatoirement contradictoire. D'accord. Parce que quelque part, pour toute initiation, les parents ne doivent plus être là.
Ben oui.
Si vous voulez que l'initiation commence, il faut que les parents ne soient plus là. Hein, donc là aussi, quelque part, autant chez Perrault, c'est plus masqué.
Oui, c'est plus masqué.
Là, c'est carrément clair. C'est-à-dire pour qu'il vous pose l'anniversaire, qu'il vous pose, sachant qu'on a des éléments qui sont aussi la symbolique des nombres, hein, entre le 7 et le 13. 7 fées, 13 fées. Donc 8 fées, 13 fées. Hein, 7 cycliques, 12 cycliques. Rupture avec le cycle.
Et 13 à table, 13.
Oui, ça, c'est encore autre chose.
Mais ça fait aussi.
Mais en tous les cas, on est sur un lieu, sur une rupture de cycle qui est posée en tant que telle avec le nombre d'effets. Hein.
Le 13e apôtre, c'est Judas, quoi.
La lune, le côté lune, je pense. Le 13, c'est le numéro du féminin divin, les 13 lunes de l'année, qui est un peu banni.
Dans tous les cas, on ne peut pas laisser passer ça. C'est le genre de choses.
Oui, le 13 sera intéressant.
Ouais. Mais alors, moi, j'ai une question, parce que vous basez sur le Grimm. Mais Grimm, c'est un auteur. Donc,
non, ce n'est pas un auteur, c'est un collecteur qui a été.
Oui, mais tout comme Perrault, tout comme Basile, là, on n'a pas de.
Comme tous les collecteurs dans le 10e.
J'ai un peu de flou avec ça, pour ça vous me permettez de poser la question.
Le flou, il porte sur quoi?
Sur l'auteur lui-même.
Non, mais Grimm, ils avaient vraiment...
C'était des collecteurs, c'était des linguistes. C'était des linguistes qui faisaient un travail de collecte.
Mais c'était quand même dans une société patriarcale, blablabla. Et donc,
comme tous les collecteurs chez nous.
Non, mais c'est ça le travail. C'est quand même un vrai travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... pris comme tout à l'heure, je vais parler de Baudelaire par exemple ou de Sarah Bernhardt, ils sont partis vraiment en tant qu'auteurs sur un délire de projection de l'ego dans ce récit, alors que là les Grimm, ils ont quand même eu dans l'idée de, j'ai entendu cette soubrette française, gouvernante française, et j'ai récolté cette histoire. Donc ils ont quand même fait un collectage, et après ils ont toujours, un peu comme tous les hommes de pas de science comme ceux du 20e siècle mais d'avant, enfin comme tous ces gens lettrés, même les comme tous les gens lettrés, avoir un peu d'admiration et de dédain pour cette matière, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis obligés de réécrire ça de façon propre et belle. C'est vrai qu'après, on a tout un courant d'ethnologues qui ont pris le texte tel qu'il est dit. Et si le conteur ou la conteuse a dit « il, elle » et s'est trompé dans les pronoms, dans son récit, il ne rectifie pas. Alors que les Grimm, ils ont mis propre. Henri Pourrat, il a remis ça au propre, hein, trouvant que quand même, ces récits, ils étaient beaux, mais il fallait les ciseler un peu.
Difficile à lire. Non, donc je pense que de toute façon, ce qui est important, mais Michel voulait poser une question.
Ce que je remarque dans ce conte, c'est qu'on parle de la naissance. Ça n'existe pas dans dans les autres contes, il est plus une fois, enfin, un roi, un empereur, etc. Et les circonstances de cette naissance, ça me frappe un peu.
La grenouille.
La reine se baigne et la grenouille lui annonce. Alors, moi, je pense aux grenouilles, c'est tard, et moi, c'est grenouille. Et est-ce que la fille n'est pas. Est-ce que la grenouille est bien dans cette naissance?
Ah, tu veux dire qu'on dit grenouille, mais qu'en fait, c'est un beau crapaud à l'allure fringante et au spermatozoïde fonceur.
Mais la grenouille est un symbole.
C'est ça que tu veux dire? D'accord, allez.
Je pense simplement que le symbole de la grenouille est à travailler aussi, mais dans Perrault, ça existe aussi. Il y a plus ou moins la notion de stérilité.
Mais chez Perrault, il n'y a pas de grenouille.
Mais il n'y a pas de grenouille, elle va au bain.
Parce qu'enfin, après avoir tout essayé,
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, on s'aperçoit que ce qui est important, ce n'est pas la grenouille, c'est l'eau. Dans toutes les versions, vous allez avoir cette notion d'eau. Voilà, donc là, par contre, eau, fertilité, on peut faire un rapport.
Et du coup, stérilité.
Donc, la grenouille devient qu'un passeur entre l'eau et l'élément. Donc, c'est pas. Alors que dans certains contes, la grenouille va avoir une valeur beaucoup plus importante. Là, elle n'est qu'un passeur.
Mais aussi, du coup, ça fait écho entre stérilité de présumée du couple et ensuite stérilité du royaume à qui on retire. Le lin, la quenouille, le rouet, etc.
Des échos. Oui.
Et juste avant un écho, justement, avec la mythologie de Pâques, où on a Iris, la déesse de la discorde, elle a un grand repas, on évite de l'inviter, elle. Mais du coup, sachant qu'elle n'est pas invitée, elle vient et elle amène une malédiction avec sa pomme à la plus belle, etc. Juste, je trouve qu'il y a un lien entre cette fée qui n'est pas invitée et qui apporte une malédiction et ce mythe ce grec à l'origine du personnage. J'imagine que ça.
Tu as raison, et durant cet motif qu'on va retrouver très très souvent dans d'autres versions, parce qu'on n'a que quelques versions, il y a plein d'autres de récits qui traitent de la belle endormie. Voilà. Mais en tous les cas, moi, ce qui me paraît important, c'est voilà, dès que vous avez des liens comme ça, c'est d'aller les explorer. Alors, pas pour le savoir, c'est pas le savoir qui est important, c'est qu'est-ce que ça éclaire. C'est ça. Bon, au bout d'un moment, vous allez trouver des choses qui ne sont pas intéressantes, vous êtes tombé. Mais souvent, ça nous permet d'éclairer les motifs qui sont là. Ok, on va peut-être continuer avec la suite, alors, puisque maintenant, on va à l'isolement.
L'isolement. Alors, il fit porter à tous les égards... Non, pardon. Alors, donc elle est morte, hein. Alors, il la fit porter avec tous les égards hors de la cité, en un lieu où il y avait un verger dans un pré. Au milieu fut construite une tour peinte d'or et de plusieurs couleurs. Autour du verger courait une rivière qu'on ne pouvait franchir que par un pont de verre. Il était mince, certes, et vous pouvez me croire, car il fut construit par un enchantement, de sorte que personne ne pouvait y passer, sinon le père et la mère. Je continue un peu. Oui, parce qu'il y a tout le... Le père et la mère allaient un jour par semaine voir leur fille comme si elle avait été en bonne santé. Leur fille, avec son clair visage, était fraîche comme la rose et le lys. Il y avait là des fleurs et des arbres de rang, car la construction du jardin était agréable et le visage de la morte était si gracieux, son lit sur lequel elle était étendue si beau, la guirlande qu'elle portait sur la tête si riche et si précieuse, sa bouche si fraîche et claire, ses dents et ses mains si blanches, les chants des oiseaux par les branches si doux, si bons à entendre, qu'on aurait voulu toujours demeurer là, en oubliant tout ce qu'on avait vu auparavant. Et tout autour de cet endroit, à trois lieues à la ronde, tous ceux qui passaient par là venaient y contempler l'eau, le pré, le pont et la tour, et ils en ressentaient au cœur une telle douceur qu'ils en abandonnaient leur voyage et disaient que dans cette demeure, c'était le paradis, puisque dehors, on ressentait si vite une telle douceur et qu'on avait une si belle vue à contempler. Et les chevaliers, les dames et damoiselles qui, entendant parler de ce lieu ici et par terre et par mer, venaient le voir, en éprouvaient un très grand plaisir. Jamais on n'aurait voulu s'en éloigner, mais on osait interroger les gens du pays, etc.
Hein? Donc là, ben, y a déjà un motif qu'on voit comment on va le trouver ailleurs. Hein, mais là, vraiment, celui-là, il est très marqué dans la notion de toute initiation, ça ne se passe pas dans la société, c'est hors société. Il faut que ça soit dans un autre monde. Et donc là, on a deux figures, dont une figure centrale du conte merveilleux, ça se passe toujours dans un autre monde. Le conte merveilleux est un voyage dans l'autre monde. Vous vous situez là où vous voulez, mais ce n'est pas dans le social. Donc, pour que ça se passe, il faut sortir du social, systématiquement. Donc là, pour l'instant, il y a surtout ça. Donc la description qu'on a, c'est une espèce de paradis.
D'ailleurs, ils le disent, paradis, et on ne peut pas l'atteindre. On peut...
Sauf le
temps. Et il y a ce côté aussi qu'on perd tout désir. Enfin, on oublie tout aussi quand on est dans cette contemplation. Hein. Il y a une sorte d'espace. Oui.
C'est un peu comme le mimosine, le mythe de mimosine, quand elle doit choisir à la fontaine de l'été ou à la fontaine de l'oubli, on peut dire qu'elle est dans la fontaine de l'oubli. Oui, c'est la fontaine de l'oubli où en fait on oublie tout ce qu'on a vécu et on est entre deux mondes en fait. Donc on rejoint le mythe de mimosine à l'origine, je sais pas.
Oui, oui. Non, mais c'est juste, hein. Dans les contes, on va toujours retrouver des survivances d'anciens mythes. Donc ça éclaire.
C'est les mêmes moteurs. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la personne qui est là, on n'a pas lu l'introduction parce que ça fait une longueur supplémentaire, mais elle nous dit bien qu'elle ne veut pas écrire en français. Et dans le travail qu'a fait la personne, c'est un travail de thèse qui a été fait à la Sorbonne, elle nous dit que de toute façon, il y a tous les comportements de quelqu'un qui était du côté des cathares. C'est vraiment le côté... donc là aussi, il y a un espace qui est très, très particulier dans le regard et dans les idéologies qui sont posées là. Donc ça crée une autre dimension par rapport à Perceforest, qui est encore autre chose. Hein. On est plus dans le roman arthurien, là, ou que Perrault. Voilà. Donc chaque fois, il y a aussi des contextes qui font qu'il faut faire attention quand on les lit à chaque fois ce qui se joue. Hein. Donc on va peut-être prendre le temps chez Perrault ou chez Grimm, je ne sais pas.
Alors, chez Perrault, peut-être
ou peut-être dans le même ordre, comme ça permettra.
Pardon.
Vas-y.
Quand le pauvre père apprit ce coup du sort, il paya d'un baril de larmes cette barrique de piquette. Puis il ordonna que l'on plaçât sa fille morte sur un somptueux siège de velours, coiffé d'un baldaquin de brocart, dans le palais campagnard où le malheur s'était produit. Ensuite, pour effacer de sa mémoire toute trace de ce malheur, il fit clore toutes les portes et s'éloigna pour toujours de ce lieu fatal, cause de ces tourments.
Voilà. Donc là, déjà, on est dans autre chose. Ça, c'est, on va dire le monde napolitain, là, hein, c'est très... voilà. Mais en tous les cas, là, on ne va pas le laisser dans le palais au centre de la ville, hein, on va le mettre, mais en campagne. Hein. Là aussi, c'est, on revient à l'état de nature. Hein. Dans toute initiation, il y a ce retour. Hein. Toute initiation se fait normalement souvent dénudée. On passe dans des endroits qui ne sont pas faciles, on refait une naissance. Il y a des situation africaine où c'est terrible, on doit passer dans des boyaux avec des lances, hein, donc on se déchire la peau, hein, donc vraiment pour ressortir et pour après avoir des fois plus de 3 mois d'initiation, hein, comme ça avec le... tout à fait, ouais. Hein? Donc là on est dans autre chose, mais là apparemment ce que l'on repère aussi c'est que c'est un siège, pas un lit. La position est importante.
Le velours,
oui, okay. Plus la douceur autour, quoi. Et là, le père, par contre, il laisse tomber. Hein. Et pour lui, elle est morte. Donc, il y a un abandon complet de la relation. Il y a un deuil à faire loin. Ce n'est pas dans le retour.
Donc, chez Perrault. Alors, le roi qui était monté au gris se souvint de la prédiction des fées et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans, était dans le royaume de Matak,
lac, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un nain qui avait des bottes de 7 lieues. C'était des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout feu traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle prouva tout ce qu'il avait fait. Mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hors le roi et la reine. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet, de pied, elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les palefreniers, les gros matins de basse-cour, la petite pouffe, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu toutes pleines de perdrix et de faisans s'endormirent et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors, le roi et la reine, après avoir bercé leurs chers enfants, sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit de s'en approcher.
Voilà. Donc là, pareil, hein, une fois de plus, c'est une autre façon de le dire, mais pour être hors société, on éteint toute la société. On la met en latence aussi. Hein, c'est-à-dire que vraiment, on est dans un autre espace. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est plus dans le même système. C'est moins clair, peut-être, mais pour moi, je trouve que Perrault, il a une touche d'écriture absolument. J'adore Perrault en tant qu'écrivain, moi. Ça, c'est vraiment l'espace. Voilà, donc la société endormie autour de la fée et jusqu'au chien.
Et le feu.
Alors, les chiens, ça a été souvent des questions. Pourquoi le garde ce chien? Et en fin de compte, il faut penser que les chiens, symboliquement, c'est des psychopompes. Ouais. C'est des passeurs entre les mondes. Hein. Voilà. Donc, il est pas pour rien là non plus. Il est là en attente aussi de pouvoir faire circuler les choses. Hein.
Dans l'amour, pourquoi le chien?
Ben oui. Donc, mais enfin, tous les cas, il passe entre les mondes, en tous les cas. Donc, une femme, c'est aussi deux mondes.
Mais les chevaux aussi.
Les chevaux aussi, les équidés, les canidés, hein, sont toujours des petits copains.
Pourquoi ils en mettent deux?
Hein?
Ils ont plus un significat. Pourquoi il y a le cheval et le chien?
Parce qu'elle s'appelle la boucle, la chienne, et c'est super.
Hein. Oui. Mais parce que quelque part, c'est pas les mêmes relations non plus avec. Ils n'ont pas au même endroit dans notre monde. Hein. C'est tous les endroits, il y a des chevaux qui apparaissent comme ça, tu peux être sûr que c'est souvent par rapport à des mondes où il y a des royautés, où il y a aussi des chiens, c'est plus
voilà, la c'est chienne, plus elle les reste près du lit plus, aussi. Hein. Voilà. Elle est au pied du lit, la chienne.
La chienne est au pied du lit. Elle attend. Voilà. Elle va attendre.
Alors que les chevaux sont dans les.
Il y a aussi peut-être en somme, ça me fait penser à ça. Là, ça résonne avec la fidélité qui est celle du chien d'Ulysse. Qui attend très longtemps.
Le retour. Ok. On va aller chez Grimm, parce que bon, c'est un écho aussi. Hein, donc on a
complètement, oui. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine qui venaient tout juste de revenir et pénétrer dans la grande salle du palais s'endormirent. Et avec eux, toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien. même pas le drapeau sur le toit. Dans le pays, la légende de la Belle au bois dormant, c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait.
On va peut-être arrêter par là, parce que ça, c'est une autre étape pour moi.
Après, hein? Oui, parce que pour moi, c'était au bout de longues, longues années.
Mais moi, on va y venir parce que c'est d'accord. Un... Mais moi, déjà là, c'est pareil. Bon, là, il n'y a qu'une chose qui, moi, me turbine un petit peu quand je lis cette version, c'est que le roi et la reine sont endormis aussi.
Oui,
alors que dans les autres versions, ils s'en vont, ils se retirent. Ouais, donc là aussi, il y a un espace où on atténue leur puissance aussi de relation avec leur fille, mais en partie du voyage, quoi. Hein, donc là, il y a des choses aussi moi qui me questionnent parce que j'ai pas de réponse, hein, mais en tout cas, ça me fait travailler dans le motif en tant que tel. Hein. Oui. Oui, mais ils disparaissent. Alors là, ils sont dans le château. Ils restent avec elle. Oui, et ils vont retrouver, mais dans l'autre côté, ils n'existent plus. Hein.
Ouais. Oui, dans l'autre côté, quand elle se réveille et que le passé dans lequel elle vivait était coupé, c'est autre chose qui se passe dans les. Parce que là, on... Ouais.
Donc, on va aller un peu plus loin maintenant dans la notion de l'éveil du désir, en gros, chez le prince charmant, charmeur. Hein, comme on dit, c'est peut-être pas charmant qu'il faudrait dire, c'est charmeur, c'est plutôt magicien, plutôt quelqu'un qui sait manipuler les charmes. Hein, voilà.
Donc on revient à Frère Joie et Sœur Plaisir. Le fils du roi de Floriande entendit parler de la demoiselle, combien elle était fraîche et belle lorsqu'elle était vivante et combien elle était 100 fois plus belle morte. Et combien le royaume était grand et comment sa demeure était enchantée. Il ne montra pas sa résolution, mais il prit avec lui une grosse somme d'or et s'en alla tout seul à Rome auprès de Virgile, qui est le magicien qui habite dans ce grand roman. Voilà, c'est un magicien qui vivait là-bas. Et il obtint son accord pour apprendre ses enchantements afin de passer sur le pont et d'entrer dans la tour, contempler à loisir la demoiselle qu'il désirait voir plus que l'empire de Gincenay, car le livre d'amour nous dit que les 12 sentiments s'accroissent par la vue et entrent par les yeux dans le cœur. Tu veux qu'on aille jusqu'à la rencontre ?
Pas encore tout à fait, mais il y a plein de choses avant.
Alors, il servit si bien Virgile, son maître, et lui donna tant d'or que Virgile l'enseigna suffisamment pour qu'il pût un jour pénétrer là où gisait la demoiselle, où, selon ce qu'on disait le livre, une journée en valait 100. Il passa habilement et doucement sur le pont et monta dans la haute tour. Et voyant la fraîche couleur et la beauté de la demoiselle, il dit « Jamais les yeux n'en virent d'aussi belles, jamais nature n'en put créer, ni la bouche en parler, ni le cœur l'imaginer. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Car une morte est repoussante et celle-ci est agréable, et plaisante au cœur et aux yeux. Elle ne pourrait l'être si elle était morte, car elle montre, il me semble, par ses yeux, qu'elle veut me parler. »
On va peut-être arrêter par là.
Oui, parce qu'après, il s'approche du lit.
Donc là, on va avoir, d'ailleurs, comme dans Les Mille et Nuits, hein, si vous regardez bien la version dans Les Mille et Nuits, il tombe amoureux d'une image.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un espace où, quelque part, sauf peut-être dans le Perse Forest, où il connaît la fille avant. Voilà. Ça, c'est encore différent. Voilà. Mais dans ces versions-là, en fait, il ne la connaît strictement pas, si ce n'est dans une espèce de fantasme. Hein, il court après un fantasme, en fait. Hein, c'est un... Voilà. Donc le désir là, il est très très particulier. Donc,
et c'est un désir qui est partagé aussi, parce que c'est pas un désir uniquement sur la jeune fille et sa beauté, etc. C'est aussi le royaume qui est grand et le lieu qui est enchanté. C'est cet ensemble quand même qui l'attire.
Le paradis qui est derrière aussi.
Oui, c'est ça.
Mais quand même, il y a vraiment tout cet ensemble. On va voir chez Basile, parce que lui, je crois que c'est beaucoup plus.
Moi, le paradis.
Mais il permet d'éclairer beaucoup de choses, Basile, quand on le lit.
Quelque temps après, le faucon d'un roi qui chassait dans ses campagnes échappa à son royal maître et, d'un coup d'aile, il entra dans la maison par une fenêtre. Comme le faucon ne répondait plus à son appel, le roi, croyant que le lieu était habité, fit abattre le heurtoir. Et après avoir entendu un long moment, attendu un long moment sans le moindre résultat, il fit apporter une échelle de vendangeur et voulut escalader en personne cette maison pour voir ce qui pouvait bien s'y cacher. Il monta donc, et après avoir fureté partout, il resta stupéfait, hébété, momifié de n'y rencontrer âme qui vive. Il finit par trouver la chambre où Thalie reposait toujours ensorcelée, et croyant qu'elle dormait, il la héla, mais il eut beau secouer et appeler, elle ne se réveillait pas. Et soudain, embrasé par les beautés de la dormeuse, il se saisit de cette proie légère et la porta sur un lit où il cueillit le doux fruit de l'amour. Sur quoi, l'abandonnant à son sommeil, il s'en retourna dans son royaume où il enfouit pour un long temps son aventure dans les profondeurs de sa mémoire.
Voilà, donc là, on est déjà
dans le chapitre suivant.
Hein, ça va vite. Hein, ouais. Donc, on sent que là, déjà, ce n'est plus un palais, c'est une maison de campagne, l'échelle de vendangeur, hein, qui n'est pas n'importe laquelle non plus. Voilà, donc, il y a vraiment toute une symbolique aussi qui est.
Ça ressemble plus à un fait divers.
Oui, bah, il est très proche en même temps d'un récit de vie ou d'un élément de cet ordre-là. Donc, le merveilleux est déjà moins porté en tant que tel. Hein, il est beaucoup plus direct dans le propos. Voilà.
Chez Perrault, au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était des tours, qu'est-ce qu'il y avait dans les tours au-dessus d'un grand bois épais. Chacun lui répondit selon ce qu'il avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où régnaient des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire de mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle du monde, qui devait y dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra. Et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens ne l'avait pu suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne se lassa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout et ce n'était que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant, bien au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'il n'était qu'endormi. Et leur tasse, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'ils étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres, pleines de gentilshommes et dames dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il n'eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Je continue. Il s'approcha en tremblant et en admirant. Il se mit à genoux auprès d'elle.
Ah oui, non, il faut s'arrêter là.
Ouais, c'est ce que je me demandais.
Tu avais bien raison.
Ouais, je me demandais s'il fallait que j'aille jusqu'à la fin.
Donc là, c'est pareil, on est sur un autre endroit. Alors moi, ce qui me fait travailler dans cette direction, c'est que le prince, il ne fait aucun effort. Hein. Même pas une échelle de vendangeur. Il y a tout qui s'ouvre. Mais pareil, on part sur une simple représentation portée par quelqu'un. Il n'y a même pas de représentation graphique ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans la tête. Donc le désir naît en tant que tel. Hein.
Je trouve que dans cette version, on sent plus le mouvement du féminin dans lequel le prince entre.
Mais en tous les cas, c'est évident qu'on ne peut pas le prendre comme dans les autres. Il y a vraiment un état, je dirais, de nature. Là, il y a un espace quelque part qui n'est pas forcé, qui n'est pas. Il n'a rien payé pour ça. Il n'a pas. Vraiment, il y a quelque chose qui. On l'attend. C'est le jour, c'est le moment, c'est l'heure. Voilà, donc, c'est vraiment. Et on le dit bien. Le terme n'est peut-être pas très élégant, mais on dit qu'elle était réservée à un fils de roi. Hein, voilà, donc il y a aussi cet espace de. Le conditionnement que la fée a mis en place. Voilà. Hein, donc, c'est aussi et intéressant.
Elle a une qualité masculine au premier chef, il est vaillant. Ah. Ce que l'on ne dira jamais d'une femme.
Mais d'un pigeon.
Donc, chez Grimm, je crois que c'est déjà aussi pareil, à peu près. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il y a cette question. Est-ce que. En fait, il arrive à choisir.
Attention. Si vous voulez dire des choses, c'est intéressant, mais dites-les vraiment à voix haute.
Non, c'était juste pour contrer le fait qu'il n'y a aucun conte avec une femme vaillante.
Oui.
Ah, si, il y en a.
Oui, il y en a. Oui. Lire les vaillantes de Praline Guépara.
Au niveau de Prince, à un moment donné, il choisit la bonne. Il y a plein de rumeurs. Et en fait, c'est pas trop si c'est lui qui choisit la vraie ou si on le choisit. Et bon, après ça, c'est parce que ça résonne pour moi, mais c'est la seule histoire qu'on nous raconte en lui disant c'est une histoire qui me vient de mon père. Donc il y a une espèce de transmission. Et c'est cette version-là des différentes rumeurs qui est juste. Et
de toute façon, vous allez voir si vous travaillez vraiment sur les contes merveilleux que beaucoup de héros sont pas dans la volonté justement.
Ouais.
Pour qu'ils réussissent, ils sont obligés de se laisser porter aussi dans un cheminement. La volonté les met toujours en travers. Et ça, c'est quelque chose qui les. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit en connexion, que ça soit dans un espace. Voilà, et ce n'est pas en voulant que ça se met en place.
Alors, je dis Grimm, alors.
Oui, allez.
Dans le pays, la légende de la belle au bois dormant. C'est ainsi que fut nommée la fille du roi, se répandait. De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille d'épines, mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et ils mouraient là d'une mort cruelle. Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait depuis 100 ans la merveilleuse fille d'un roi, appelée la Belle au bois dormant. Avec elle dormaient le roi, la reine et toute la cour. Le vieil homme avait aussi appris que de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus qui avaient tenté de forcer la haie d'épines. Mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors « Moi, je n'ai peur de rien, je vais y aller, je veux voir la belle au bois dormant. » Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas. Or, les 100 années étaient justement écoulées. Et le jour était venu où la belle au bois dormant devait se réveiller. Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elles reformaient une haie. Dans le château, il vit les châteaux et les chiens de chasse tachetés qui dormaient. Les chevaux, pardon. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Et lorsqu'il pénétra dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre les murs. Le cuisinier dans la cuisine avait encore la main levée comme s'il voulait attraper le marmiton et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin et le silence était si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors ah non, la belle on est trop loin. S'éveilla.
Non non, on est trop loin. C'est pas grave, c'est pas grave. On garde
le même motif qui pose tant de problèmes.
Je suis venu dans un baiser, c'est tout. Parce qu'il est c'est
une histoire de côté.
Non, on ne dit pas s'il va donner un baiser.
On voit en tous les cas que là, le bois, il est vraiment acteur. Hein, puisque il. Pardon. Ah, pardon.
Donc là, on a vraiment des princes accrochés, là, non stop.
Et il y a les épines, je trouve, parce qu'il y a des versions où on l'appelle la princesse fleur d'épines. Ouais. Et je trouve que la présence des épines, là, elle est encore plus forte.
L'épine remplace le fuseau aussi, hein, c'est-à-dire ouais. qu'on va retrouver les mêmes codes à peu près entre l'épine et le fuseau, tout ce qui est épine.
Mais alors là, c'est les princes qui sont accrochés aux épines, donc.
Imagine les cadavres dans la.
Ils étaient tous vaillants, mais pas tous chanceux.
Quand j'y vais, c'est le spermatozoïde qui va chercher l'ovule. C'est incroyable. Où il n'y a qu'un élu et puis que la vie va pouvoir reprendre son. On rentre à les origines de la création.
C'est ça, je pense que c'est un récit ancien. C'est ça, non? Il y a beaucoup de soleil, lune, opposé entre masculin et féminin. C'est
un rite de fertilité présent. Ok. Donc après, on a la fameuse scène qui a. Alors moi, quand j'écoute cette version, en même temps, je comprends que Walt Disney a choisi Grimm pour faire ses films. Quand on regarde l'écriture qu'il a dans chez Grimm, elle est hyper imagée. On a vraiment des endroits d'image qui sont projetés. On est moins dans le côté fleuri de la littérature de Perrault. Voilà, donc, et du coup, on a vraiment des images brutes qui sont récupérables d'entrée. Quoi. Voilà, je pense que les dessinateurs peuvent très vite s'inspirer de ça. Il n'y a pas de problème, tu connais bien.
Voilà. Ok, donc on arrive au moment de la rencontre.
Un moment crucial.
Alors, il s'approcha du lit et humblement s'agenouilla sur un siège d'or qu'il trouva là, où le père et la mère s'asseyaient quand ils venaient voir son visage plaisant et doux. Ah, noble et plaisante créature, la plus belle que je vis jamais, puisque cet amour que vous me montrez dans votre sourire et me faites apparaître dans vos yeux, puissiez-vous m'aimer, mais pour autant que je vous aime, ce serait trop dire, et ce serait mauvaise raison et injustice qu'amour vous causa autant d'angoisse qu'à moi, vous qui êtes fleur de beauté et de courtoisie. Mais il me semble que ce serait droit d'amour si je vous aimais et vous non, à condition de me permettre par miséricorde de vous aimer d'autant d'amour que Tristan aima Iseult et de mourir pour vous avoir aimé. Plût à Dieu.
Et on prend la suite de la lecture. Là.
Plût à Dieu que ce fût maintenant le matin, mais jamais le jour ne fut plus court que celui-ci. Et vous l'abrégez pour mon séjour. Quel tort vous ai-je fait? Moi qui croyais être en mai, oui, les jours sont encore brefs
Pour mes péchés, le jour me sera trop court pour prendre ma joie. Plût à Dieu que ce jour durât un an et que je fusse toujours ici à genoux et parlant ainsi et regardant longtemps cette jeune fille en lui tenant les mains, en admirant sa bouche, son visage et toute sa figure. Ah, douce dame, plaisante et gaie, noble et plaisante, si je savais ne pas vous être insupportable, je vous embrasserais. Si seulement vous pouviez me le dire maintenant, on pourrait bien me juger fou de ne pas prendre la joie que Dieu m'offre. Je l'embrasserai, et si elle en était irritée, je me garderai de prendre un plus grand plaisir. Eh Dieu, comment savoir si cela lui agrée ou non? Il est vrai que je le verrai aussitôt à l'expression de son visage, car on dit que la contrariété ou le plaisir paraissent aussitôt sur le visage. Personne ne peut, par la force de sa volonté, faire mauvaise figure à un bienfait. Alors, il l'embrassa doucement et regarda son doux visage. Il lui sembla qu'elle lui faisait un doux sourire et qu'elle en était satisfaite. Aussi, l'embrassa-t-il une nouvelle fois, oui, plus de 100 fois, avant qu'elle ne remuât les lèvres. Alors aussitôt, levant doucement la couverture tissée d'or, d'une grande valeur et cousue d'une façon remarquable, il vit son beau corps revêtu d'une chemise cousue de fils d'or et d'argent, et il semblait qu'elle l'eût passé pour mieux plaire à son ami. Et jamais, je vous le dis en vérité, on ne vit un corps si bien sculpté, si droit, si charnu et si svelte à la fois. Il avait été fait avec raison, avec mesure, car plus jamais nature n'en fit de si gracieux ni de si beau. Et elle avait au doigt un anneau gravé de lettres qui disait, pour ceux qui savaient les lire, « Je suis l'anneau de sœur de plaisir. Celui qui m'aura pourra l'avoir par amour avec un plaisir vivant quand il aura pris joie parfaite. » Il prit l'anneau et lui mit le sien qui était aussi gravé de lettres disant son nom. « Je suis l'anneau de frère de joie. Celle qui m'aura, je l'aimerai non comme un rustre, mais comme un fils de grand roi. »
Oui, on peut arrêter par là.
Ouais, après, parce qu'il y a tout le reste. Ouais.
Donc, c'est vraiment, on est dans l'amour courtois, hein. En même temps, on est dans un espace qui est, mais qui est intéressant, parce qu'on est vraiment sur cet endroit où on va voir après, j'espère qu'on aura le temps, ça va aller vite, hein, parce que le temps passe, hein. Il reste quoi. Ouais. Mais sinon, on fera en sorte peut-être de vous laisser. On vous laissera la suite du texte, hein. Mais c'est évident qu'après, il y a vraiment tout ce retour sur la jeune fille qui se réveille et qui va, justement, on va avoir un débat là, qui est très juridique, voilà, presque, hein, sur le non-consentement et sur le pourquoi. Clairement. Et la défense. On est vraiment sur un espace qui est de l'ordre de l'amour courtois aussi, c'est-à-dire que toutes les règles sont réénoncées en tant que telles. Hein.
Et ça, c'est qu'à tout, ça ressemble. Hein? C'est assez cato ce qui est dit là, on dirait que c'est une
crèche.
J'imagine une question.
Hein. Je pense pas. On est vraiment sur un autre endroit. Mais pour moi, on est vraiment dans la notion de le. Et ça, c'est très cata. Dans la position.
Ah, oui.
Tu le relis dans le détail, c'est vraiment, tu changes les deux anneaux. C'est des deux anneaux qui sont vraiment sur la transgression. Enfin, c'est vraiment très particulier. Il faudrait prendre le temps de.
Mais celui qui l'a écrit, il disait qu'il n'était pas pour les Tatars.
Non, tout le contraire. Si. Le contraire, non, il était sûrement Tatar.
Ah ouais. Parce qu'on dirait que tu te déguisais.
Non, c'est très. Donc, on va aller peut-être pour finir, parce que là, il faut qu'on laisse la place quand même pour aller vers Perceforest.
Oui.
Donc, on va aller jusque-là, vers, peut-être pour. On l'a déjà vu, plus ou moins, parce que lui, il est déjà parti. Hein.
Ben là, c'est le réveil. Ouais. Voilà, là,
donc, le réveil, c'est encore une autre histoire. On va le poser après.
Chez Perrault, il s'approcha en tremblant et en admirant, regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. Excusez-moi. Il se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla. Et regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue, ne semblait le permettre. « Est-ce vous, mon prince ? » dit-elle. vous vous êtes fait bien attendre. Peut-être que... Voilà, le prince charmé de ses paroles, plus encore. Mais voilà, mais c'est quand même. Bien, ouais. Ce moment, quand même, c'est elle qui dit vous vous êtes bien fait attendre. Toi,
il ou alors que là, il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors la belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant. Et puis après, tout le château se réveille. Mmh. Et ensuite, ben, le cuisinier donne la gifle au marmiton. Juste, je dis, parce que je le trouve si fort que celui-ci en cria. Voilà. Le mariage du prince et de la belle au bois dormant fut célébré avec un faste exceptionnel. Ils vécurent heureux jusqu'à leur mort.
Voilà. Ouais.
Hein. C'est fini.
D'accord. Donc, en tous les cas, sur ce réveil, il y a plein de choses. Là, pour moi, il manque vraiment la succulence de faire joie. Quoi. Et de faire plaisir, hein, parce qu'il y a vraiment ce texte qui est extrêmement précis. Donc je dirais que quand on voit un petit peu tous ces textes-là, déjà on n'a fait qu'une approche, hein, mais bon, pour moi c'est une façon de commencer à travailler, et après aller de plus en plus dans le détail des éléments, mais je crois qu'il y a un premier élément, c'est d'abord de le rêver, nourri de toutes ces facettes. Qu'est-ce qui va remonter? C'est ça qui va être important. Où est-ce que vous avez des questions? Où est-ce qu'il y a des endroits qui vous gênent? Où est-ce qu'il y a des endroits qui sont troublants? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont justement par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut aussi aujourd'hui, comment ça peut être pris aujourd'hui, comment ça peut être interprété.
Oui, hein,
Donc c'est autant d'éléments qui sont, je dirais pas, il ne faut pas prendre une décision narrative immédiatement, on rentre dans la phase que moi j'appelle la phase d'intégration, de digestion, hein, voilà. Et ça c'est extrêmement personnel. Ce que vous allez garder, qu'une personne va garder, c'est peut-être pas ce que l'autre personne va garder, les problèmes que vous allez ressentir ne sont peut-être pas ce que les autres personnes vont ressentir non plus, hein, c'est... Dobago disait à ses danseurs, quand vous arrivez à la phase de digestion, je ne peux pour rien pour vous. Débrouillez-vous. Là, on est vraiment dans un espace en même temps où il y a un endroit d'intégration qui peut durer. Hein. Et cette intégration peut durer à tel point qu'il y a des comptes, moi je connais des compteurs, hein, qui travaillent encore sur des comptes depuis des années et qui ne se sentent pas de les raconter. Et pourtant, c'est des comptes qu'ils travaillent régulièrement. Il y a trop de troubles, il y a encore trop d'espace sur lesquels ils ne s'en sentent pas. Enfin, pour pouvoir le transmettre, tout simplement. Mais n'empêche que tout ce travail qu'ils vont faire va les aider aussi à travailler sur les autres comptes qu'ils ont autour. C'est autant de matières qui enrichissent l'ensemble du répertoire, en fait.
J'ai juste un détail, je n'ai pas continué assez pour dire que lui s'exprime de manière gauche et elle s'exprime très bien, mais parce qu'elle avait eu le temps de songer à tout ce qu'elle pourrait lui dire. Donc ça montre bien qu'elle y avait vraiment rêvé et qu'elle était prête à l'attendre, ce qu'on n'entend pas ailleurs.
Oui, il y a des versions de tournée qui est magnifique parce que le prince est là, il le réveille et puis elle lui dit je trouve que c'était quand même beaucoup mieux dans mes rêves. Il compte détourner, on en reparlera tout à l'heure.
Il lui plaît.
Voilà. Donc, peut-être on va laisser la place maintenant. Pour...
Juste avant, Marc, est-ce que tu peux rassurer certaines de nos auditeurs qui demandent les traductions de Grimm et de Basile et les références pour faire joie et sœur plaisir, on les donnera bien.
Oui, alors le plus difficile que vous aurez à trouver, c'est celui-là, parce que c'est un bouquin qui est complètement épuisé. Hein, si vous le voyez, je suis un bouquiniste, n'hésitez pas, parce que vous ne le trouverez pas par ailleurs. Et vraiment, c'est une superbe étude et c'est vraiment une très belle version. Moi, j'aime beaucoup cette version-là. Il y a une belle écriture en même temps, beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'endroits de débat. Voilà, je trouve qu'elle est très, très riche. Hein.
Voilà. Je vais la montrer.
Donc, oui, pardon, elle est là. Mais on va vous mettre tout ça en ligne, hein, si c'est possible, vous inquiétez pas. Voilà. Hein, donc, c'est Sorbonne. C'était quelque chose qui date, c'était un travail de thèse à la base. Hein. Voilà. La bibliothèque, vous la trouverez. Hein. Ok. Donc, on va, du coup, maintenant qu'on a tout ça en éclairage, on va pouvoir écouter la dernière version qu'on n'a pas du tout traitée là, qui est celle de Perse Forest. Hein. Donc, on va laisser la place à l'enchaînement.
Les références,
peut-être te présenter.
Oui,
merci.
Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Rachel Salter. Je suis écossaise et j'habite en France depuis 20 ans, plus ou moins, dans un village qui s'appelle Puyvert. Je vais parler plus fort. Puyvert, c'est un village, on peut dire, cathare, parce qu'il y a un château cathare et qui est un peu la raison pour laquelle les gens viennent visiter Puyvert. Et en fait, c'était